Bonjour. Je voudrais vraiment terminer aujourd'hui, ou plutôt interrompre, parce que ce n'est pas terminé, ces réflexions que nous avons entreprises depuis bientôt 21 semaines, vous vous rendez compte, 22 semaines, au sujet de la famille. Peut-être, pour, comme je l'annonçais la semaine dernière, pour pouvoir reprendre plus tard, quand on aura un peu fait autre chose, réfléchi à autre chose, pour pouvoir le reprendre sur un tel ou tel point particulier. Vos réactions, si vous voulez bien me les faire connaître, me sont précieuses de ce point de vue-là, ne serait-ce que pour aborder des questions que vous souhaiteriez voir posées, auxquelles nous pourrions réfléchir ensemble. Je voudrais aujourd'hui, terminant, d'abord vous donner une indication toute pratique. C'est les deux textes auxquels j'ai fait allusion au cours de ces entretiens, c'était même mon point de départ, c'était la lettre de Jean-Paul II aux familles et l'exhortation apostolique que l'on nomme du titre de son titre latin « Familiaris Consortio » ou encore l'exhortation sur la famille. Je vous signale que si vous cherchez à retrouver ces textes et que vous avez du mal, ils viennent d'être réédités l'un et l'autre en un seul volume, dans une collection que vous pouvez trouver partout, celle du livre de poche, le livre de poche, sous le titre « Jean-Paul II parle de la famille ». Jean-Paul II parle de la famille. Et le numéro de la collection, c'est le 13701. Le livre de poche 13701. Vous avez là, édité très convenablement, avec des titres et des sous-titres qui rendent la lecture plus aisée, plus facile, vous avez ces deux textes, la lettre de Jean-Paul II aux familles et l'exhortation apostolique Familiaris Consortio. Peut-être, après les entretiens que nous avons eus, aurez-vous le goût de revoir ces textes que je n'ai fait que effleuré en prenant tantôt une phrase, tantôt une autre, parfois même sans la citer, et vous aurez matière à réflexion, j'en suis sûr, et peut-être si j'ai pu vous donner le goût d'y recourir, j'en serais très heureux, parce que ce sont des textes d'une très grande richesse et qui sont d'autant plus nécessaires dans notre temps que l'institution familiale est fragile et que beaucoup parmi vous, je le sais, subissent les conséquences de cette fragilité dans leur propre famille ou dans celle de leurs enfants ou de leurs relations. Et il faut d'autant plus ancrer la réflexion, la fonder, pour que nos convictions, même intuitives, puissent résister à la contradiction de l'opinion ou bien au courant majoritaire dans une société qui, sur ce point en tout cas, ne fait pas le bonheur de ses membres. Mais fragilise encore la faiblesse humaine qui existe partout et dans toutes les générations. Alors, ceci étant, à la suite de ces entretiens, je vous fais part d'une idée qui, moi, me traverse souvent l'esprit, c'est que ce que l'Église enseigne, ce dont elle témoigne au sujet de la famille, c'est une vérité d'autant plus précieuse qu'elle apparaît aujourd'hui tout à fait inévidente. Dans certaines époques, elle a semblé, et elle semble, j'en suis convaincu, j'en ai la preuve, pour un certain nombre de jeunes, comme parfois pour un certain nombre de jeunes, comme un idéal désirable, mais auquel ils n'osent pas penser parce qu'ils craignent que ce soit une illusion ou au-dessus de leur force. Pour des plus âgés, c'est une nostalgie de quelque chose qu'ils auraient bien voulu voir réalisé et qui s'est peu à peu effrité, effondré autour d'eux. Pour certains, enfin, c'est comme un roc sur lequel ils ont pu fonder leur existence et ils en ont reçu, avec des épreuves, voire des persécutions, la bénédiction, qu'ils en rendent grâce à Dieu. Donc pour une partie de ceux qui m'écoutent, ce peut être un idéal dont on craint qu'il soit une chimère, une espérance parfois déçue, ou bien une force dont on a reçu la bénédiction. Pour beaucoup, ça semble être quelque chose de tout à fait contraire aux mœurs du temps, à ce que tout le monde fait, à ce qui est possible, à ce qui est pensable. Et un certain nombre seraient tentés d'accuser l'Église d'être chimérique, d'être trop sévère, d'entretenir des illusions. Si tout le monde fait autrement, comment voulez-vous que nous fassions? Ne pourriez-vous pas vous mettre au goût du jour? Faites comme tout le monde. Et puis, l'Évangile n'en demande pas tant. Dieu est bon. Pourquoi tant d'exigences? Et puis, pourquoi tant d'échecs? Alors, mes amis, je voudrais seulement vous dire ceci. Nous avons tous connu des périodes difficiles, dans la vie personnelle comme dans la vie des sociétés. Et vous savez très bien que la pente majoritaire d'une société ne suffit pas à déterminer les lois du bonheur. Réfléchissez sur les années écoulées selon la longueur de votre vie. Vous voyez bien comment les modes ont changé, comment les conformismes ont évolué. Et ce n'est pas parce que tout le monde pense une chose à une époque donnée que pour autant on avait raison de penser ainsi. Je ne veux pas reprendre ce refrain que je vous ai déjà chanté un certain nombre de fois. Chaque époque a besoin de gens courageux. Je ne dis pas de héros. De gens courageux, c'est-à-dire qui acceptent au moins de se poser les questions courageusement et de ne pas se laisser faire par le conformisme ambiant, d'accepter que la vérité dérange. Non pas pour agresser, non pas pour offenser, non pas pour imposer leur point de vue, mais pour aider les hommes et les femmes de notre temps à reprendre leur liberté, à se frotter les yeux et à se dire « mais enfin, dans quel monde vivons-nous » à ne pas réagir uniquement par coup de cœur, coup de gueule, coup de griffe, coup de dent, par passion. Parce qu'à ce moment-là, vous le savez bien, des passions qui ne sont contrôlées par ni par l'amour de la vérité, ni par l'amour et le respect du prochain, ni par la maîtrise de soi et le respect d'autrui, aboutit au pire malheur et aux pires catastrophes. Nous le voyons bien dans cette frange, cette partie de la jeunesse qui perd tout repère, qui perd tout contrôle parce qu'elles ne savent pas, elles ne savent plus, elles n'ont plus de points fixes auxquels elles peuvent à partir duquel elles peuvent étalonner leur propre réaction, celle de leur conduite, apprécier le bien et le mal de ce qu'ils font. Et ce sont des gens qui, dans leur errance, sont perdus, et nous voyons bien qu'un certain nombre font leur propre malheur. La famille représente certainement l'un des points centraux de la vie sociale et de la vie personnelle. Je dis cela aussi bien pour plusieurs angles sur lesquels on peut l'apprendre. On peut l'apprendre sous l'angle de la sexualité, comme cela est pris souvent aujourd'hui. Vous voyez bien, je n'ai pas abordé beaucoup cette question, je n'ai abordé qu'à la marge. Mais vous voyez bien qu'il y a, la manière dont on a voulu prôner la libération sexuelle, il y a en fait une hyper-érotisation d'une société qui pervertit, qui dénature le regard des hommes et des femmes sur leurs propres conditions et qui entraîne surtout pour les plus jeunes et pour les enfants et ensuite pour les adultes qu'ils deviendront des blessures, des dérives, parfois des failles psychiques et affectives irréparable. Et quand cela devient à l'échelle d'une société, cela entraîne des conséquences dramatiques, dont nous voyons bien les conséquences violentes dans un certain nombre de cas qui sont rendus publics. Nous voyons aussi que la relation homme-femme est une relation qui aujourd'hui est très perturbée, très mal construite, pleine d'agressivité. Il suffit de regarder les œuvres des cinéastes ou des romanciers d'aujourd'hui pour se rendre compte combien d'interrogations, y compris dans leurs excès, ces témoins volontaires ou involontaires d'une culture et de notre temps sur lesquels ils peuvent nous alerter. Car le monde tel qu'il est décrit dans les films récents, y compris avec les objectifs les plus divers et parfois les plus contradictoires de la part des auteurs de ces films, décrivent un monde fou et amer. Donc la relation homme-femme et la société elle-même, ces grandes sociétés de communication et urbaine vers laquelle l'humanité semble devoir entrer, du moins à courte échelle, à échelle de temps relativement brève, est une société où s'il n'y a pas ces éléments de vie sociale que représente la cohérence familiale. Cela est vrai, pas seulement du mari et de la femme, mais c'est des parents et des enfants dans les deux sens. J'ai toujours évité, quand nous en parlions, de me mettre dans la position des parents parlant de leurs enfants, ou bien seulement des enfants parlant de leurs parents. Il faut que nous ayons sans cesse cette capacité de prendre le point de vue opposé au nôtre, ou différent du nôtre. On peut aussi prendre le point de vue des célibataires qui ont droit à une famille, eux aussi, à une parenté. On peut prendre le point de vue des grands-parents, on peut prendre le point de vue des petits-enfants, on peut prendre le point de vue de la famille plus étendue, cousins, cousines, etc. Donc tout ça, il faut bien que nous l'assumions ensemble. Mais la cellule familiale, la structure familiale, est ce dans quoi chaque personnalité s'épanouit, en tout cas grandit, même quand la cellule familiale est déficiente ou blessée, même quand elle est aussi le lieu de la souffrance. Et une société qui annihilerait, qui détruirait, comme c'est le cas, la capacité de créer des cellules familiales qui constituent la vie sociale, serait une société qui serait en train de se détruire. Or, ce qui me rend, c'est ma conviction, c'est qu'on voit apparaître dans cette société où cela est en train de se produire, un désir puissant de la part de la jeunesse de construire une vie familiale digne de ce nom. Mais ils y vont comme des explorateurs en terre inconnue. Ils ont vaguement gardé le souvenir plus ou moins idéalisé de ce que ça aurait dû être ou de ce que ça aurait pu être. Mais ils n'ont pas eu d'apprentissage pratique. D'autant plus que les conditions de la vie familiale ont changé, qu'ils ne mènent pas la même vie que celle de leurs parents ou arrière-parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents. Ils ne sont plus dans l'univers familier d'une existence qui se déroule paisiblement dans le même horizon. Bref, ils n'ont plus les moyens de leurs ambitions, ou plutôt, les moyens, ils doivent les inventer et les trouver. Ce qui fait que ce sont ces pionniers, je le crois, qui créeront un modèle familial dans la société telle qu'elle est en train de se construire, et il y faut pour ça la force de l'Évangile pour être capable d'aller à l'encontre des conformismes les plus courants. Je ne vais pas prolonger aujourd'hui, j'ai déjà été trop long, mais voilà quelle est à la fois mon espérance et ma prière pour ceux qui aujourd'hui s'engagent dans la vie familiale, et je demande que le Seigneur leur accorde la grâce de découvrir ce qu'est véritablement l'amour, comme l'Église leur en rend témoignage.